C'est l'heure de Café Polar. Catherine Fruchon-Toussaint. Jean-François Cadet.
Comme tous les jeudis, Catherine Fruchon-Toussaint nous a rejoint en studio. Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Alors qu'est-ce que vous nous avez concocté comme surprise cette semaine ?
Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une légende.
Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom ?
Rien. Vous n'êtes pas agent. Vous êtes clandestin. Pourquoi t'es à Paris ?
Comment ça, pourquoi je suis à Paris ?
Vous avez 5 semaines pour régler cette histoire.
Les légendes sont faites pour ça, pour faire écran.
Bon, alors on a reconnu, en tout cas les aficionados ont reconnu un extrait de la série du Bureau des légendes, série de Canal+, hein, c'est dans l'univers de l'espionnage que vous allez donc nous plonger, Catherine.
Exactement, une histoire d'espion entre la Roumanie et la France, qui est au cœur du livre dont je vais vous parler. Il s'intitule « La troisième vie » et il est signé du journaliste Fabrice Arfi, qui est co-responsable du département des enquêtes au journal en ligne Mediapart.
Oui, il a révélé de très nombreuses affaires. Alors c'est un roman ou c'est une histoire vraie ?
C'est une histoire éminemment littéraire, mais oui, qui s'appuie sur une histoire inspirée de la réalité, celle d'un Roumain, Benedetto Vincenzo, qui s'est fait passer pour le neveu prodigue d'un maçon italien installé dans le sud de Lyon après la Seconde Guerre mondiale et qui ainsi, en manipulant les sentiments de son pseudo-oncle, a quitté Bucarest pour s'infiltrer dans la famille française à la fin des années 60 et a sans doute été pendant très longtemps un agent au service de la Securitate en Roumanie. Et cette affaire passionne depuis 15 ans. Fabrice Arfi, je lui ai demandé pourquoi.
C'est vrai que cette histoire est devenue obsessionnelle et je m'y suis intéressé pour des raisons qui pourraient paraître paradoxales, voire contradictoires. D'abord parce que je suis fasciné par la duperie d'un homme qui infiltre une famille qui n'est pas la sienne. C'est une sorte de trahison qui remue énormément de choses, comme un sol qui se dérobe sous les pieds de plein d'honnêtes gens qui pensaient redécouvrir une partie de l'histoire de leur propre famille et qui en fait sont dupés par la volonté d'un mensonge d'État qui est celui de l'espionnage. Et dans un second temps, je vais être hanté par les mystères de cette histoire, c'est-à-dire parce que je ne vais pas trouver dans cette histoire, qui est une violence de la pensée pour le journaliste qui je suis, qui depuis 25 ans fait ce travail d'enquête et qui essaye de démontrer ce qu'il trouve, j'ai dû m'accommoder que, avec les armes qui sont les miennes, les seules armes qui sont les miennes, c'est-à-dire le journalisme, c'est-à-dire le réel, j'ai livré une bataille inégale, parfois difficile, parfois avec la défaite au bout du chemin, face à une fiction plus grande que moi, qui est la fiction d'État que représente l'espionnage.
Fabrice Arfi raconte donc son enquête au long cours. Comment a-t-il procédé, Catherine ?
Eh bien, il s'est plongé dans les archives, il a lu de nombreux journaux et des livres d'époque, il a rencontré beaucoup de témoins et bien entendu, il s'est rendu à plusieurs reprises en Roumanie, sur les traces de celui qui se faisait passer pour un autre. Et il s'est immergé dans l'histoire d'un pays qui, ne l'oublions pas, a longtemps vécu sous un régime de dictature, donc sous le sceau du silence. Et d'ailleurs, comment a-t-il été accueilli sur place, Fabrice Arfi ?
Ah bah très bien, très bien, parce qu'il y a encore... Disons que tout le monde est un peu convaincu qu'il y a, depuis la chute du rideau de fer, puis la mort de Ceausescu, hein, le décembre 89, c'est la chute du régime Ceausescu. Moi, j'ai 8 ans, c'est ma première, si j'ose dire, émotion politique. Alors, j'ai 8 ans, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je me rappelle très bien de l'émotion de mes parents, qui à la fois étaient bouleversés par la ferveur démocratique de la révolution roumaine, et en même temps très choqués par la manière dont avaient été jugés, puis exécutés les époux de Ceausescu. Pourquoi je dis ça ? Parce que, pour répondre à votre question, depuis cette date-là, il y a eu évidemment un travail de mémoire qui a été fait autour de l'histoire roumaine et des années de dictature, comme ça a pu arriver en Allemagne de l'Est. l'Est. Des centres d'archives ont été ouverts. En Allemagne de l'Est, on appelait la police secrète la Stasi. C'était la Securitate pour la Roumanie. Et donc, tout un travail a été fait. Bon, mais ça ne veut pas dire que tout a été découvert. Donc, on est encore très convaincus en Roumanie qu'il y a encore des vérités à connaître. Il y a encore des choses à trouver, bien qu'il semblerait qu'avec la chute de Ceausescu, beaucoup de documents essentiels aient disparu et qu'il est encore aujourd'hui difficile de retrouver la trace d'un certain nombre de mystères qui resteront peut-être encore des points d'interrogation pendant longtemps dans notre mémoire collective.
Alors dites-nous Catherine, à force de recoupement, est-ce que Fabrice Arfi a pu, avec cette enquête, trouver des réponses à ces questions, à commencer évidemment par la plus importante, Benedetto, espion ou pas ?
Des preuves directes, non. Un faisceau de concordance certainement, puisque par exemple Fabrice Arfi nous rappelle que Benedetto a bien été repéré par le contre-espionnage français, arrêté en 1980 et contre toute attente libéré en 1981 par un ministre qui n'a été en poste qu'un mois, Maurice Faure pour le nommer, et que malgré un grand nombre d'indices, Benedetto n'a plus jamais été inquiété. Il est même resté en France. Ou aux dernières nouvelles d'ailleurs, il serait vivant, en tout cas en décembre dernier. Et à deux reprises, Fabrice Arfi a pu lui parler directement.
Évidemment, moi j'ai l'obsession de rencontrer ce personnage qui charrie avec lui tellement de légendes au propre comme au figuré, qui, après sa condamnation, contrairement à ce qu'il arrive à tout ce type d'agents illégaux, n'est pas renvoyé en Roumanie, reste en France. Donc il est là, il n'est pas loin de moi d'une certaine manière quand je commence à m'intéresser à lui. J'ai des échanges téléphoniques brefs avec sa femme, j'essaye d'en avoir avec lui et en effet, je finis par réussir à le rencontrer. Je rencontre un homme noué, je rencontre un homme dont il est évident au premier abord, même si je l'ai très peu vu, très peu de temps, qu'il est toujours une montagne de secrets et qu'il ne veut pas ou ne peut pas s'en libérer. Et c'est pour ça qu'il me dit quelque chose d'absolument fascinant. L'une de nos rencontres, il me dit « Je n'ai aucune histoire à vous raconter. » Alors que sa vie n'a été faite que de ça.
Le mystère reste donc entier et en même temps, Catherine, vous avez lu ce livre d'une traite, hein, comme un vrai roman policier.
C'est vrai qu'on ne lâche pas le récit parce qu'il imbrique grande histoire et histoire secrète, mensonges d'État, enjeux politiques et choix individuels. Et surtout, on suit Fabrice Arfi qui comprend que rien n'est blanc ou noir, d'où le titre d'ailleurs de son livre, « La troisième vie ».
La troisième vie, parce que ça fait un écho à une phrase que Garcia Marquez a dite à son biographe. On a tous trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. C'est pour ça que j'appelle ça la troisième vie, puisque plein de personnages de mon livre, pas simplement l'espion, ont des vies secrètes que j'essaye de comprendre. Et donc voilà, d'une certaine manière, en vérité, pourquoi ça a été obsédant pour moi ? Parce que pendant 15 ans, j'ai enquêté sur moi-même et sur mon rapport à ce que mon métier peut ou ne peut pas face à des fictions qui sont plus grandes que lui.
Oui, une enquête historique et personnelle aussi, dit Fabrice Arfi. Dans quel sens ?
Bien parce que c'est à la fois une remise en question de son métier de journaliste, le nôtre, où l'on cherche la vérité, mais sans doute qu'il y a plusieurs vérités. Et puis une quête personnelle parce qu'au cours de son enquête, Fabrice Arfi s'est aperçu que son propre père, qui à l'époque était policier à la brigade financière de Lyon, avait participé à sa façon à cette affaire d'espionnage. Donc, est-ce que cette vocation du journalisme d'investigation a pu lui venir de son père ? C'est la question que j'ai posée à Fabrice Arfi.
On peut reconstruire les choses a posteriori. J'ai, de fait, grandi dans un imaginaire, étant enfant, qui avait nécessairement un lien et un toit symbolique avec l'enquête policière, puisque ça a été pendant un certain nombre d'années le métier de mon père, qu'il a arrêté pour en faire un autre. Il est devenu avocat. Mais moi, ce n'était pas à l'origine le métier que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était être musicien, jouer dans des, jouer dans des stades. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le journalisme à l'âge de 18 ans, j'ai pas de diplôme si ce n'est le baccalauréat, j'ai commencé à écrire sur la musique, frustré de probablement pas en faire mon métier. Et donc, c'est les hasards de la vie de bureau dans une rédaction qui ont fait que je suis passé du service culture à la chronique judiciaire, à m'intéresser à la chose judiciaire et à décider de faire après mes propres enquêtes. Donc oui, je pense qu'indéniablement, peut-être que les chiens font pas des chats et que ça a pu jouer. Mais je ne dirais pas que c'était une évidence au départ. Mais c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les histoires policières qui ont pu être celles de mon père, même si un journaliste n'est pas un policier frustré, un magistrat frustré. Bien sûr qu'il peut y avoir des parallélismes de forme sur l'enquête, mais notre objet social n'est pas le même. Et moi, mon métier ne consiste pas à amener des gens devant des tribunaux, mais à raconter des histoires vraies ou d'essayer de comprendre ce qu'il y a de vrai dans les histoires inventées, comme dans La Troisième Ville.
Voilà, La Troisième Vie de Fabrice Arfi vient de paraître aux éditions du Seuil. Et l'intégralité de mon entretien avec l'auteur est à retrouver dans le podcast du jour Café Polar.